Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Aujourd'hui, pour notre épisode de la pause éducative, je vais vous parler de la lutte contre le harcèlement à l'école. Le 5 novembre, c'était la journée de lutte contre le harcèlement et l'association Créer son école m'a demandé d'enregistrer une petite vidéo de 2 minutes sur les mesures que nous prenons dans notre établissement, le lycée international Montessori Athéna de Bailly, pour lutter contre ce problème de harcèlement. Cette vidéo a été publiée sur le compte Instagram de cette association, donc le compte de Créer son école, que je vous conseille vraiment de suivre, car il publie des textes très intéressants sur la liberté scolaire, sur les écoles hors contrat, sur les nouveaux projets de loi par rapport à l'instruction en famille, par rapport au renforcement de la surveillance des écoles hors contrat, etc., etc. Lorsque j'ai préparé cette courte vidéo, je me suis dit que c'était un très bon sujet de pause éducative, car j'avais bien plus à partager qu'une vidéo de 2 minutes me laissait faire. Donc, d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 700 000 élèves environ sont impactés par des agressions répétées. Ça, nous, on s'en rend compte énormément aussi au lycée international Montessori Athéna de Bailly, parce que c'est très, très régulièrement que nous recevons des demandes d'inscription de jeunes en phobie scolaire par suite de harcèlement par des camarades. C'est vraiment très fréquent et de plus en plus fréquent, malheureusement, et de plus en plus jeune. Hein, pas mal. Il existe aussi maintenant des élèves de primaire qui subissent du harcèlement dans leur classe. Et c'est vraiment, vraiment très triste. Donc, le harcèlement, ça peut se manifester par des insultes, par des menaces, par un jeune qui va être tapé, bousculé ou qui reçoit des messages injurieux à répétition. De nos jours, le harcèlement entre élèves se poursuit aussi beaucoup par l'intermédiaire des téléphones et des réseaux sociaux. Et on appelle ça aujourd'hui le cyberharcèlement. Donc, il se pratique via les téléphones portables, les messageries, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, etc. Donc, le gouvernement, parmi toutes les mesures qu'il va mettre en place, a demandé l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège, car il pensait que pour eux, c'était un élément essentiel de la lutte contre le harcèlement. Encore une fois, malheureusement, je trouve que notre gouvernement pense que la solution passe par l'interdiction. Interdiction de l'école à la maison, qui a été l'objet de la pause éducative de lundi dernier, interdiction des téléphones portables à l'école. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure mesure, puisqu'ils disent aussi que ce super harcèlement se poursuit principalement à l'extérieur de l'école. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'interdire les téléphones portables à l'intérieur de l'école. Donc moi je sais que ce souci de harcèlement, de cyberharcèlement existe vraiment parce que, comme je vous disais, on reçoit malheureusement pas mal de demandes de jeunes justement qui subissent ce harcèlement via souvent les réseaux sociaux, via des messages sur le téléphone portable. Et notamment, je me souviens d'une jeune fille qui est arrivée en troisième et qui était vraiment en état de grande phobie scolaire parce que elle avait été harcelée, insultée sur les réseaux sociaux, sur notamment c'était Facebook, et elle allait vraiment très mal. Et bon, heureusement, on a réussi petit à petit à lui redonner confiance en elle. Mais elle était vraiment une grande victime de ce harcèlement et c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc pour le harcèlement, évidemment, via les réseaux sociaux, via les téléphones portables, je suis d'accord avec un projet du gouvernement de vraiment surveiller beaucoup plus tout cela via des contrôles justement de ces réseaux et pour que ça n'arrive pas beaucoup, que ça arrive de moins en moins certainement. Alors pour moi, une des choses qui est très importante pour lutter contre ce harcèlement scolaire, une des choses très importante, c'est de développer un esprit de grande confiance entre les enseignants ou la direction et les élèves, quel que soit leur âge. Et pour cela, il doit y avoir vraiment des moments d'échange entre les enfants et les professeurs, afin que les jeunes vraiment se sentent libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Donc ça passe vraiment par une attitude de l'adulte qui doit rester très accessible aux jeunes afin que ces jeunes sachent qu'ils peuvent dire beaucoup à cet adulte, qu'ils puissent se confier. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et je pense que ça passe par vraiment, bon, par l'attitude de l'enseignant, évidemment, et aussi par des mesures. Par exemple, nous, les jeunes tutoient leurs professeurs et je pense que ça donne une plus grande proximité. Et c'est pas pour ça qu'il leur manque de respect. Mais ça donne, ils les appellent par leur prénom, et de ce fait, ça coupe déjà certaines barrières. Et puis, si l'enseignant essaie de bien comprendre chaque élève, et non de considérer sa classe comme un groupe, il se rend plus rapidement compte d'un changement de comportement chez un de ses élèves. Et ainsi, il peut aller vers lui, essayer de lui demander ce qui lui arrive, essayer d'être vraiment encore plus observateur de cet élève, parce que des élèves qui subissent du harcèlement, en fait, ça se voit dans leur comportement, ça se ressent, leur attitude change. Si l'enseignant est plus proche de ses élèves, est plus attentif à chacun de ses élèves, il va arriver, en général, à déceler quelque chose chez l'élève. Bien sûr, pour permettre cela, il faut que les classes soient moins chargées pour que l'enseignant puisse plus rapidement connaître ses élèves individuellement et mieux les connaître. C'est sûr que dans une classe de 15, on connaît bien plus rapidement et bien mieux ses élèves que dans une classe de 30, voire comme une enseignante me disait hier, des classes de 40. Je ne vois pas comment un professeur peut avoir une relation privilégiée avec ses élèves dans une classe de 40. Ça me paraît vraiment impossible. Une autre chose que je pense qui serait importante, c'est que les enseignants reçoivent des formations différentes, des formations pour apprendre à mieux appréhender un élève qui ne semble pas aller bien, pour apprendre à instaurer un climat de confiance entre l'élève et lui-même pour lui permettre de développer justement cette relation de confiance Comment pouvoir parler à un jeune, comment aller vers un jeune qui veut pas parler, quels mots il faut dire ou quels mots il ne faut pas dire, comment on arrive à déceler qu'un jeune ne va pas bien. Et je pense que ça, c'est dans la formation des enseignants. Il faudrait vraiment ajouter une partie là-dessus, puisque c'est vraiment un problème actuel, un problème qui est grave, puisqu'il peut mener certains jeunes au suicide. Et je pense que ça passe vraiment beaucoup, beaucoup par le professeur, et ils auraient besoin vraiment d'une formation pour pouvoir mieux parler aux élèves, mieux les connaître, mieux ressentir quelque chose qui va mal chez le jeune, comment savoir l'aborder. Vraiment, il y a besoin de ça. Comme me disait encore hier une enseignante de français de terminale en lycée public depuis bientôt 20 ans, elle me disait qu'on leur apprend à enseigner leur matière, mais pas à connaître le développement des jeunes, pas à savoir leur parler, pas à savoir mieux les connaître, quelle attitude avoir. Donc ça, je pense que ça devrait faire partie de la formation des enseignants. Une autre chose qui me semble très importante, c'est que les enseignants soient vraiment des modèles pour leurs élèves et justement ne se permettent jamais une remarque blessante, une ironie, une moquerie, une marque de mépris. Et ça, malheureusement, ça arrive encore très souvent, voire trop souvent. Et comme le disait toujours Maria Montessori, en fait, une parole qui peut nous paraître bénigne pour nous peut blesser un adolescent pour toujours. Et je pense que si, justement, dans leur formation, ils avaient plus des notions, des neuroscientifiques, justement, sur le développement du cerveau des jeunes, sur la gestion, comment ils peuvent ou ne peuvent pas gérer leurs émotions, comment ils sont d'une susceptibilité extrême, beaucoup, justement, stopperaient ces petites moqueries, ces petites paroles qui peuvent leur paraître vraiment anodines et qui sont extrêmement blessantes et qui sont parfois, qui font souvent reprises par les autres élèves. Et si l'enseignant ne se permettait pas de faire ça, ben je pense que ben déjà certains élèves ne reprendraient pas derrière les mêmes propos. Dans notre établissement aussi, nous avions mis en place à un certain moment, parce que ça nous semblait nécessaire, des professeurs qui devenaient des tuteurs ou des mentors pour certains élèves qui en avaient besoin. De cette façon, un jeune collégien ou un jeune lycéen choisissait un enseignant avec qui il se sentait bien et ce professeur devenait son tuteur et ils avaient ensemble régulièrement des conversations au cours desquels le jeune faisait part de ses soucis, de ses problèmes, mais aussi de ce qui allait bien, des domaines dans lesquels il avait besoin d'aide. Et l'enseignant aussi, dans l'autre sens, recevait les informations des autres professeurs et pouvait justement ajuster la situation. Et je pense que si on mettait aussi ça davantage en place, justement, créer une relation un petit peu privilégiée, eh bien, les jeunes qui subissent du harcèlement, qui ont des soucis avec les autres, pourraient à ce moment-là davantage en parler, davantage se confier. Et puis aussi, l'enseignant, s'il voyait un changement de comportement, un changement dans les paroles, il pourrait plus vite réagir et plus vite mettre des choses en place pour protéger ce jeune. Je pense qu'aussi, une chose qui est importante, c'est aussi de commencer très jeune, dès l'école maternelle, mais aussi beaucoup à l'école primaire, et aussi continuer, bien sûr, en collège et en lycée, d'avoir des conversations, des débats sur des grands sujets de la vie, et justement sur le fait que chacun a sa place. Souvent, on remarque que le harcèlement est porté contre des jeunes qui semblent peut-être un peu différents pour des tas de raisons, hein, peut-être, quoi, on ne peut pas savoir, mais souvent, c'est sur des jeunes qui paraissent différents. Et justement, je pense qu'il faudrait expliquer dès tout petit que la différence, c'est la richesse de chacun. Donc, par exemple, aussi, le fait d'intégrer des jeunes à besoins spécifiques dans des classes et de demander justement aux autres une grande bienveillance à leur égard, de les aider dans leurs difficultés, ça les rend aussi, les autres, beaucoup plus gentils, beaucoup plus bienveillants. Je pense que la bienveillance est quelque chose qui devrait se développer vraiment dès tout petit. Nous, on le fait énormément dans nos écoles Montessori-Athéna et aussi dans la philosophie Montessori, puisqu'on veut développer un monde de paix, donc un monde où les uns et les autres s'acceptent et sont gentils les uns avec les autres. Et je pense que ça devrait se faire partout, dès tout petits. Donc comment? Mais par justement beaucoup, beaucoup de discussions. Donc je disais, au niveau du primaire, nous on met en place ces débats philosophiques sur de nombreux sujets. Et du coup, dès qu'il arrive quelque chose en classe, parce que malheureusement, aussi certains enfants enfants peuvent être parfois moqués ou rejetés. Et ça, c'est pour moi le début du harcèlement. Et à ce moment-là, si on a un débat immédiat sur le sujet, qu'on en parle longuement, qu'on parle des émotions que ressent cet enfant, de ce que ça pourrait entraîner, moi, je le fais beaucoup dans ma classe, en fait, les choses s'arrêtent assez rapidement. Et je pense que ça commence dès tout petit. On ne va pas voir ces problèmes juste en collège, puisque ça arrive beaucoup en collège. Je pense que c'est des valeurs humaines qu'il faut développer dès tout petit. Le fait aussi de cultiver la spécificité de chacun en respectant justement le fait que chacun est différent et que c'est ça qui est important, qu'il faut vraiment rester soi-même et que chacun, en étant lui-même, apporte à l'autre, que chacun a donc une place importante, ça permet que aucun ne soit mis de côté parce que je sais pas quoi, moi, parce que il est plus petit, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est différent, parce qu'il est rêveur, parce qu'il aime pas jouer au même jeu que les autres. Ça me paraît très important. Donc aujourd'hui, malheureusement, je trouve que l'éducation publique ou privée sous contrat met tout le monde dans un moule. Et si on n'est pas dans le moule, et ben en fait, on ne se sent pas à sa place. On se moque d'eux, on a une étiquette. Et donc, je pense que ça, c'est très mauvais parce que c'est à ce moment-là aussi que certains sont exclus et sont moqués par les autres. Donc, on dit souvent, il y a celui qui est trop sensible, celui qui est hyperactif, celui qui parle trop, celui qui est dyslexique, celui qui ne comprend rien, celui qui va trop vite, celui qui dérange, celui qui est précoce, celui qui est surdoué, celui qui est sportif. Et ça, je pense que mettre des étiquettes, c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose. Et je pense qu'il faut vraiment, au contraire, mettre en valeur ces différences, mettre en valeur ces spécificités pour montrer que c'est une richesse pour chacun, mais aussi pour le groupe. Et que donc, il ne faut jamais rejeter personne. Par exemple, moi, je me souviens d'une petite fille qui était arrivée à l'école et qui était un peu différente des autres. Et du coup, elle était un peu vilaine. Hein. Elle leur tirait les cheveux, elle se moquait d'eux. Et en effet, les autres l'avaient rejetée. Et là, j'avais beaucoup de discussions avec les enfants et avec elle pour leur expliquer que justement, si elle leur tirait les cheveux et si elle se moquait d'eux, c'est justement peut-être parce qu'elle était malheureuse et parce qu'ils ne l'acceptaient pas. Et que plus ils allaient la rejeter, plus ils allaient se moquer d'elle parce qu'elle était autrement, plus elle allait être malheureuse et elle, sa réaction, c'était de les agresser, de mal leur parler, etc. Et le jour où ils ont compris que ce n'était pas une attitude à avoir, qu'il fallait plutôt l'accepter telle qu'elle était et quand elle leur tirait les cheveux, ben, tant pis, dire que ça ne leur faisait pas plaisir. Justement, parler aussi de ses sentiments, de ses émotions, eh bien, les choses se sont calmées et sont rentrées dans l'ordre. Et ça aussi, je pense que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pousser les enfants à parler de leurs émotions, à parler de leurs sentiments, à parler de ce qu'ils ressentent, c'est aussi extrêmement nécessaire parce que parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils font de la peine à l'autre, que l'autre est malheureux. Et ça, c'est aussi très important de leur apprendre dès tout petit. Expliquer aussi beaucoup les cultures différentes et que aussi grâce aux cultures différentes, la vie est plus riche, la vie est plus jolie et qu'on ne doit pas rejeter l'autre parce qu'il a une culture différente. Ça aussi, je pense que c'est important. Beaucoup parler du fait de ne pas rejeter l'autre. Maria Montessori disait toujours que quand on ne connaissait pas quelque chose, ça nous faisait peur et qu'à ce moment-là, on le rejetait. Donc, apprenons-leur le maximum sur les autres, sur les cultures différentes, sur les différences de chacun. Et peut-être que comme ça, ils n'en rejetteront pas d'autres parce qu'ils sont différents. Et puis que, en fait, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de personne à qui on va obéir. Et puis celui-là, il va nous dire de harceler l'autre, de le taper. Ça, nous, on a beaucoup de discussions là-dessus, justement, sur le fait obéir, ne pas obéir. Évoquer tous ces sujets, c'est très important. C'est vrai que je viens d'écrire un livre sur ce sujet suite aux discussions qu'on avait qui s'appelle « Mes petites graines de sagesse » et qui est paru chez Solar, justement. Et ce livre a été écrit parce que nous mettons en place dans nos classes justement sur le fait d'apprendre à parler de ses sentiments, à dire ce que l'on ressent. Et ça me paraît très très important. Je pense qu'aussi de développer aussi vraiment une pédagogie de la bienveillance envers autrui, ça me semble aussi très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, même en collège, on ne parle pas assez de ce besoin de bienveillance des uns par rapport aux autres. Quand j'entends parfois des parents ou des enseignants, quand par exemple un enfant a tapé un autre, nous on leur dit qu'il faut surtout pas rendre le coup. Et on entend, moi j'ai déjà entendu, mais trop souvent des enseignants et des parents disent « mais si, il faut qu'ils rendent les coups parce que comme ça, il doit apprendre à se défendre. Et ça, je crois vraiment que c'est pas une bonne chose. On ne doit pas apprendre à se défendre. Moi, c'est ce que je leur dis souvent. Alors, il t'a tapé, toi, tu l'as tapé, tu vas le retaper, puis après, tu vas aller chercher un plus grand qui va le taper. Et c'est comme ça qu'il y a une violence. Il faut stopper cette violence, en fait. Il faut que la violence n'entre pas dans l'école, ne rentre pas dans les classes, que ce soit quelque chose de totalement anormal. Il faut rejeter ces phénomènes de violence et d'irrespect les uns après les autres. Et non, la vie, c'est pas de rendre le coup parce qu'on a eu un coup, de rendre le coup, de se faire insulter, alors on insulte l'autre. Non, c'est pas ça la vie. Je pense qu'il faut vraiment changer cette façon de voir les choses. Une chose qui me semble aussi assez importante, c'est le fait du mélange des âges et de fait d'expliquer aux plus grands qui sont des modèles pour les plus petits et qui sont plutôt là pour les protéger, pour les soutenir, pour leur montrer un chemin, pour leur expliquer les choses, pour leur rendre service. Et quand ils ont vraiment conscience de ce rôle de modèle, qu'ils le prennent très au sérieux, c'est vraiment très important pour eux. Et on voit, moi j'ai souvenir de collèges où les grands troisièmes maltraitaient les plus petits de sixièmes. Et dans ce cas-là, ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, les grands, ils ont conscience justement qu'ils sont plutôt un modèle et plutôt un protecteur des petits plutôt que quelqu'un qui va leur faire du mal. Ça, je pense aussi que c'est très important de développer ces valeurs. De respect au contraire des plus petits et qu'on a besoin des plus petits et qu'on peut faire des choses pour les plus petits et au contraire qu'on a un rôle important à jouer avec eux. Enfin, une chose qui me semble aussi primordiale, c'est la relation avec les parents. Je pense que la communication entre les parents et l'école doit être très bonne, doit être extrêmement présente. Ainsi, le parent qui va observer un comportement un peu différent chez son enfant et qui va savoir qu'il peut en parler à l'école, qu'il est libre d'en parler, qu'il va être écouté, et que non seulement il va être écouté, mais que des choses vont être mises en place en relation avec eux, en accord avec eux. Je pense que c'est vraiment très très important. Les parents, je pense qu'ils doivent entrer dans l'école, ils doivent être vraiment écoutés, respectés, soutenus, accompagnés. Et ça, ça me paraît très important pour justement qu'ensemble, parents et professeurs et direction d'école soient ensemble pour s'occuper des enfants, des adolescents, pour justement, ensemble, ils peuvent vraiment être plus unis pour sentir justement une différence d'attitude chez un enfant et pour mettre en place des choses pour que ça s'arrête, que les mauvais agissements s'arrêtent tout de suite. Moi, je le vois au niveau de ma classe. Hein, j'essaye vraiment d'écouter les parents et de les laisser le maximum entrer dans l'école, entrer dans la classe autant qu'ils le désirent. Et comme ça, ils peuvent exprimer tout de suite leurs craintes, leurs soucis et dire quand ils sentent que leur enfant ne va pas bien, est malheureux. Moi, je l'ai eu cette année avec un nouvel élève qui avait un problème avec un de ses camarades, justement, eh bien, il ne voulait plus aller à l'école, il se sentait pas bien. Bon, les parents m'ont tout de suite écrit, et tout de suite, on a réagi, l'équipe avec qui je travaille a réagi, a été formidable, et il n'y est pas plus loin qu'hier, j'ai eu une lettre de ces mêmes parents qui me disent que maintenant, il se sent bien avec les adultes, il est heureux à l'école, il se sent soutenu, et que la relation avec les camarades, eh bien, justement, elle va suivre. Et ça, je pense que c'est très important et que le dialogue existe, mais qu'il continue, qu'on se tienne au courant. Moi, ce que j'ai répondu à ses parents, c'est vraiment qu'ils continuent à me tenir au courant de l'évolution des choses, de comment ils sentent leur enfant, parce qu'il peut y avoir des rechutes et on aura peut-être besoin de réajuster les choses dans quelques temps. Et ça, c'est vraiment très, très fréquent. J'avais aussi une petite fille il y a 2 ans qui était très triste. Nous, on la voyait pas triste à l'école, mais... quand elle rentrait à la maison, son papa nous a dit au bout d'un certain temps, trop longtemps d'ailleurs pour moi, qu'elle était triste, qu'elle pleurait parce que les autres petites filles n'étaient pas gentilles avec elle. Et elle pleurait beaucoup en rentrant à la maison. Et dès qu'il en a parlé, ben, j'ai essayé de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire. Et j'ai proposé à ce papa de venir à l'école. Et lors du regroupement, hein, puisque chaque jour on a des regroupements où on parle tous ensemble, lors du regroupement, de venir expliquer aux autres ce que vivait sa petite fille, ce que les autres lui faisaient vivre justement. Et il l'a fait. Et les choses se sont arrangées, mais tout de suite, quoi. Il l'a fait, on en a parlé, on a échangé. Et les autres enfants se sont rendus compte de la peine qu'elle faisait à cette petite fille et ont tout de suite changé d'attitude. Et tout a changé tout de suite. Et même pour ce papa, il s'est senti écouté, il a pu voir ce qu'on vivait dans l'école, qu'on prenait les choses tout de suite au sérieux, qu'on avait une grande communication avec les enfants, et lui aussi a été réconforté. Étant réconforté, il a pu mieux communiquer avec nous tous et avec sa petite fille sur ce qui arrivait. Donc pour moi, c'est vraiment très très important que l'école soit ouverte aux parents et que professeurs et parents aient une relation de grande confiance mutuelle pour aider les jeunes et pour justement déceler le moindre problème et agir immédiatement. Donc après, bien sûr, si on a conscience qu'il y a un problème grave et qu'un élève harcèle un autre ou que voilà, et nous on prend les sanctions immédiates, hein, on garde pas l'enfant dans l'école, on communique bien sûr tout de suite avec les parents du jeune qui harcèle et on peut au début on communique et puis après, si jamais les choses ne s'arrangent pas tout de suite, on fait des exclusions temporaires et appelées des exclusions tout de suite. Les choses aussi qu'on a mises en place, ça c'était l'an dernier, c'était des élèves, un élève dans la cour, ou deux élèves ensemble, qui étaient les gardiens de la paix pendant une semaine. Donc ces enfants avaient une tenue spéciale pendant toute cette semaine, et pendant les récréations, ils se promenaient dans la cour, ils marchaient dans la cour, ils regardaient qu'un enfant soit pas seul, et les autres savaient que s'il y avait le moindre problème, ils pouvaient s'adresser à eux et qu'ils allaient ensemble trouver des solutions pour arranger les problèmes. Donc chaque semaine, il y avait un enfant ou deux qui s'inscrivaient pour être les gardiens de la paix dans la cour. Et ça aidait beaucoup justement à la gestion de certains conflits ou certains enfants qu'on trouve parfois seuls dans les cours de récréation. Et à ce moment-là, comprendre pourquoi ils sont seuls et essayer de faire quelque chose pour eux. Donc voilà, bien sûr, par rapport aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, comme je le disais au début, il faut prendre des mesures de protection pour tout ça, mais ça, bon, moi, ça me dépasse totalement. Je voulais juste évoquer avec vous ce qui me semble possible de faire à l'échelle des établissements scolaires. Et bien sûr, c'est plus facile à faire si les établissements scolaires ne sont pas trop importants, qu'il n'y a pas trop d'élèves. Hein, nous, au lycée international Montessori-Internat de Bailly, le fait des petits effectifs nous permet vraiment de connaître chaque élève, d'établir une relation privilégiée avec chacun et chacune, une relation de confiance ainsi qu'avec les parents. Et ça nous permet aussi de voir les problèmes plus tôt, car évidemment, comme tout établissement, on connaît également ces problèmes, malheureusement. Le fait aussi qu'on ait un établissement qui va de la maternelle au baccalauréat, et que les enfants soient tous mélangés. En fait, on a aussi des enfants que l'on a depuis la maternelle et qui sont maintenant aujourd'hui, voire en troisième, seconde, première, je ne sais pas. Et bon, c'est évident que là, se tisse une relation vraiment privilégiée et une relation de confiance. Et de ce fait, si un jeune, un collégien qui est là depuis longtemps voit que qu'un autre est pas gentil ou que un autre souffre ou que un autre fait subir du harcèlement, il nous en parle tout de suite. Et là, on peut mettre tout de suite des choses en place dans l'école, en parlant avec la famille, etc. Et je pense malheureusement que c'est un problème de notre société, mais parce que aussi je pense que très jeune, on doit commencer à parler du respect de chacun, des valeurs de gentillesse, de bienveillance, du fait que l'on n'a pas le droit de faire mal à un autre, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en place, mais très très tôt, que ça doit être de véritables matières et de véritables moments pour ancrer tout ça et qu'on peut faire part de ses sentiments, qu'on peut parler de ses émotions, qu'on peut parler de ses peurs et que justement doit être accepté avec ses différences.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, DESC, -Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.